Ça va ? Ouais, gloire à Dieu. On va ouvrir ensemble la parole de Dieu, si vous voulez. Dans 2 Timothée 4, verset 6, l'apôtre Paul va parler de lui. Il a parlé de Timothée et puis maintenant il va parler de lui. Il dit ceci, 2 Timothée chapitre 4, verset 6. On peut le lire si vous voulez, vous pouvez ouvrir votre Bible ce matin et on peut lire ce texte. « Car pour moi, je sers déjà de libation. » Vous savez, je m'étonne, je n'entends pas les pages qui se tournent parce qu'en fait tout est à l'écran maintenant. Hein. « Car pour moi, je sers déjà de libation et le moment de mon départ approche. » Et Paul dit « J'ai combattu. » Le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là, et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. L'apôtre Paul dira en d'autres mots à Timothée, pour l'encourager, de ranimer la flamme et avec quelques exhortations. Et ensuite, Paul va montrer à son collègue qu'en ce qui le concerne, il a bien fini la course. Est-ce que vous voulez bien finir la course de votre vie? Parce que c'est une chose de bien commencer, c'en est une autre de bien finir. On va arriver au terme de l'année 2018 et on va commencer une nouvelle année. Mais vous savez, la Bible dit que ce qui vaut mieux qu'une nouvelle année, que le commencement, c'est la fin. Et c'est vrai aussi dans la vie chrétienne. On peut avoir commencé en feu, on peut avoir commencé rempli du Saint-Esprit, et puis finalement, avec les difficultés de la vie, on peut s'être arrêté. Paul a combattu le bon combat. Et il a combattu jusqu'à la fin. L'ennemi n'a pas eu raison de sa foi. Il dit, j'ai gardé la foi jusqu'à la fin. Désormais, la couronne m'est réservée. Je vais aller rejoindre mon Seigneur. Il a la paix avec le Seigneur. Et finalement, combattre le bon combat de la foi, je dirais que c'est garder une bonne conscience. Vous allez dire, tu inventes cela, c'est le pasteur, il invente ça. Non, je n'invente pas ça. Il est dit ceci, par exemple, dans 1 Timothée, chapitre 1er, verset 18, l'apôtre Paul dit ceci à Timothée, « Le commandement que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que d'après elles, tu combattes le bon combat. » Paul dit, « J'ai combattu le bon combat jusqu'à la fin. » Et Paul exhorte Timothée, il continue à l'exhorter en lui disant « combat le bon combat ». Vous savez, il y a des faux combats. Il y a des combats dans lesquels Dieu n'est pas. Dans l'Ancien Testament, il est question de combats qui venaient de Dieu. Quand Dieu est dans un combat, il faut le mener. Mais il y a des combats qu'il ne faut pas mener. Par exemple, il est dit « ne faites pas la guerre à vos frères ». Ne faites pas la guerre à vos frères. C'est écrit. Ce sont des faux combats. Des combats qui ne mènent à rien, si ce n'est qu'à se faire du mal. Mais le combat, le bon combat, Paul dira que c'est celui qui consiste à garder la foi et une bonne conscience. Cette conscience, quelques-uns l'ont perdue et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. Et j'ai été interpellé par le fait de devoir garder une bonne conscience. Vous savez, la conscience, c'est cette petite voix à l'intérieur de nous qui nous parle, qui nous avertit, qui peut nous corriger lorsque nous faisons quelque chose de mal. Alors on peut l'écouter, cette petite voix, ou on peut la faire taire. Mais Dieu a placé dans ton cœur et dans mon cœur ce que la Bible appelle une bonne conscience. Et Paul dit que cette conscience, quelques-uns l'ont perdue et ont fait naufrage par rapport à la foi. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas bien fini leur course. Et il va même les citer. De ce nom sont Hyménée et Alexandre. Passage mystérieux, Paul dira, que j'ai livré à Satan afin qu'ils apprennent à ne pas blasphémer. La bonne conscience, c'est quelque chose qui peut se perdre. On peut avoir commencé dans la vie chrétienne en mettant notre vie en règle, parce qu'en règle générale, quand on commence dans la vie chrétienne, qu'est-ce qu'on fait ? On met notre vie en règle. Souvent, on dit, pour pouvoir se faire baptiser, il faut mettre notre vie en règle. Et on a raison. Pourquoi ? Parce que le baptême, c'est l'apôtre Pierre qui le dit, le baptême, c'est l'engagement d'une bonne conscience devant Dieu. Je m'engage à être fidèle au Seigneur. Aujourd'hui, les gens ne veulent plus s'engager. Ils ne veulent plus s'engager, ne veulent plus se donner parce qu'ils n'ont pas confiance. Mais le baptême, le vrai, celui qui est de l'Écriture, c'est l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Voilà pourquoi nous ne baptisons pas les bébés, par exemple. Pourquoi nous ne les baptisons pas ? Nous ne les baptisons pas parce qu'un bébé ne peut pas s'engager. Il n'a pas conscience de ce qu'il fait. C'est la raison pour laquelle Jésus, lui, se fera baptiser à l'âge de 30 ans dans les eaux du Jourdain par Jean-Baptiste. Dites-moi, la Bible dit, c'est Jésus qui l'a dit, « Allez par tout le monde, prêchez la bonne nouvelle à toute la création, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. » Est-ce que un enfant, là encore, peut croire ? Est-ce qu'un enfant a la faculté, un bébé, d'avoir une foi réelle, d'avoir un engagement dans sa conscience de fidélité envers Dieu ? Quand l'apôtre Pierre prêche le jour de la Pentecôte, que les croyants qui sont là, à l'écoute du sermon de Pierre, sont, la Bible dit, vivement touchés dans leur cœur. Et ils vont dire, mais qu'est-ce qu'il faut faire pour être sauvé ? L'apôtre Pierre va dire, eh bien, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Et l'ordre ici est fondamental. Il est dit, avant de se faire baptiser, qu'il faut se repentir. Il faut demander pardon pour ses péchés. Est-ce qu'un enfant peut demander pardon pour ses péchés ? Ben non. Il ne peut pas s'engager, il ne peut pas croire et il ne peut pas demander pardon. Parce qu'il n'a pas conscience qu'il est un pécheur. Et il faut nécessairement l'action du Saint-Esprit et de la parole de Dieu conscience soit réveillée, pour que la conscience tout à nouveau soit éclairée, que nous prenions conscience que nous sommes des pécheurs. Un petit peu comme Adam et Ève, lorsque la voix de l'Éternel, nous dit l'Écriture, parcourait le jardin, ils virent qu'ils étaient nus. La conscience, c'est l'œil du cœur. C'est ce qui nous permet de réaliser notre nudité spirituelle. C'est terrible lorsque nous commettons des fautes et que notre cœur ne bat plus. Vous voyez, lorsque Saül a poursuivi David, à plusieurs reprises, David a eu l'opportunité de le détruire. Il a eu l'opportunité, pardonnez-moi de l'expression, de tomber dans des faux combats et de le planter. Il aurait pu le faire. Et à un moment donné, il a simplement, nous dit l'Écriture, coupé le manteau, le bord du manteau de Saül, et il sentit battre son cœur. Quand tu pèches, quand je pèche, est-ce que je sens battre mon cœur ? Est-ce que mon cœur bat encore ? Lorsque je critique, lorsque je juge, lorsque je blasphème, lorsque je désobéis, est-ce que ma conscience me parle ? Alors, ce combat, ce bon combat qui consiste à garder la foi et une bonne conscience commence au moment où nous nous engageons avec le Seigneur. Cet après-midi, nous avons 7 personnes, 7 adultes qui ont réalisé qu'ils étaient des pécheurs et qui ont décidé de s'engager avec le Seigneur. Mais j'aimerais leur dire que le chemin est long et qu'il faudra, aller jusqu'au bout avec le Seigneur. Et que dire « j'ai la foi » ne suffit pas. La Bible dit que les démons croient en Dieu et ils tremblent parce qu'ils savent qu'ils seront jugés à cause de leur désobéissance. Ça ne se fait pas tout seul. En réalité, pour pouvoir terminer la course avec force, il est nécessaire de combattre le bon combat qui consiste à garder une bonne conscience. L'apôtre Paul disait ceci, acte 24, verset 16, « C'est pourquoi je m'efforce d'avoir constamment une conscience sans reproche devant Dieu et devant les hommes. » Paul disait « Je m'efforce constamment, littéralement, je prends de la peine, ou encore je travaille, je m'exerce à ce que ma conscience soit sans reproche. » Et ailleurs, dans un autre passage, il dira « Le Dieu que je sers avec une conscience pure. » Est-ce que je peux le dire ce matin ? « Le Dieu que je sers avec une conscience pure. » Je suis nickel devant Dieu. Est-ce que je peux le dire ? Est-ce que je vis en conscience ? Ou est-ce que j'ai quelque chose qui pèse sur la conscience ? Vous savez qu'il y a beaucoup de gens malades qui sont dans des hôpitaux psychiatriques parce qu'ils sont rongés par la culpabilité. Ils sont bouffés, pardonnez-moi, à l'intérieur. Et on peut leur donner des traitements chimiques à n'en plus finir. Mais le problème, c'est un problème de conscience, de remords. Par exemple, la personne qui a été abusée sexuellement alors qu'elle était enfant, alors qu'elle était une victime, totalement victime, arrivée à l'âge adulte, elle se culpabilise. Elle est prise alors qu'elle n'y est pas rien. Et le diable en fait son jeu. Et le diable détruit cette âme. Le diable détruit cette personne. Le Seigneur voudrait soulager ta conscience. Le Seigneur peut soulager ta conscience. Elle peut être mauvaise, cette conscience. Et c'est pour cela qu'on n'est pas bien. C'est pour cela que nous sommes privés de la paix, privés de sérénité, parce qu'il y a de la culpabilité. Ce qui est étonnant des fois, ça c'est étonnant, il y a des gens qui font le mal et qui n'ont pas de problème de conscience. Vous en connaissez ? Mais ça ne veut pas dire qu'ils ne devront pas rendre des comptes un jour. Parce que Dieu est le juste juge. Et Dieu dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Tôt ou tard, il faudra casquer pour nos mauvaises œuvres. Mais c'est fou parce qu'il y a des gens, des fois, qui font le mal et ils sont tranquilles. C'était le tourment finalement du psalmiste dans le psaume 73 d'Azaph. Il voyait ces gens qui étaient plein d'embonpoint, qui avalait l'eau abondamment, et puis il vivait tranquille. Et lui qui était un fidèle, lui qui était un homme de Dieu, il dira chaque matin, mon châtiment est là. C'est le monde à l'envers. Parce qu'il y a des gens qui vivent dans le mal et qui n'ont pas de problème de conscience, parce qu'ils ont tué leur conscience. Et puis il y a des gens qui vivent positivement, qui font le bien, mais qui ont une conscience faible, une conscience qui n'a pas été restaurée par la grâce de Dieu, qui n'a pas été régénérée, et des gens qui font le bien et qui se culpabilisent alors qu'ils ne devraient plus se culpabiliser. Vous en connaissez ? Allô ? Tu vis avec Jésus ? Jésus est ton Seigneur, tu le chantes, je suis ami de Dieu. Et pourquoi, alors que nous sommes les amis de Dieu, pourquoi, alors que nous ne pratiquons pas le mal, pourquoi nous sentons accusés? Pourquoi? Parce qu'il y a l'accusateur des frères. L'accusateur des frères, c'est Satan. Et le diable sait que nous ne pouvons pas bien servir correctement si notre conscience n'est pas sereine. Je ne peux pas avoir de la foi s'il y a un accès dans ma vie à l'accusation. Je serai bloqué quelque part. Et il faut faire attention à cela. Je ne peux pas servir le Seigneur avec liberté, le Dieu que je sers avec une conscience pure, si je n'ai pas la conscience pure. Je ne peux pas m'approcher d'un Dieu saint si je sens que dans ma vie, il y a des choses qui ne sont pas réglées, qui ne sont pas correctes devant Dieu. Et c'est normal. Ça serait quand même incroyable qu'on s'approche devant Dieu avec assurance alors qu'il y a dans nos vies des choses qu'on doit régler. Alors le bon combat, il n'est pas extérieur, il est intérieur. En réalité, c'est les coulisses, si vous voulez, de notre foi. Il y a des choses que l'on voit, puis il y a des choses que l'on ne voit pas. Il y a des choses qui sont cachées, il y a des choses qui sont enracinées, il y a des choses qui sont profondes. Et la conscience, c'est l'être profond du cœur du croyant. Alors je te demande, comment va ta conscience ce matin? Tu veux être heureux? Retrouve une bonne conscience. Parce que tant que nous n'avons pas une bonne conscience, notre âme est tourmentée. Lot, la Bible dit que son âme était tourmentée. Lot, le juste, son âme était tourmentée journellement parce qu'il voyait et entendait. Pourquoi? Parce que ce n'était pas un homme qui était clair. Il n'était pas suffisamment tranché, il était ballotté. Il savait ce que Dieu voulait pour sa vie, mais il s'est laissé séduire et attirer par les lumières de ce monde. Il est allé à Sodome et Gomorre. Et à Sodome et Gomorre, vous savez, les choix que nous faisons, notre environnement, les gens que nous fréquentons, on ne peut pas, comme on le dit couramment, on ne peut pas avoir un pied dans le monde et un pied dans l'Église. À un moment donné, il faut choisir. Sinon, le plus malheureux, ça sera toi. Parce que ta conscience ne sera pas en paix devant le Seigneur. Amen, pasteur Yvan. Cette conscience, donc, elle nous accuse lorsque nous faisons le mal, et c'est bien. Et c'est tant mieux. Amen. Et je dirais même, merci Seigneur. Vous vous rappelez de ce passage dans l'Écriture, lorsqu'on a amené une femme surprise en flagrant délit d'adultère. Bon, c'est pas bien l'adultère, on est bien d'accord? L'adultère, c'est un péché, c'est répréhensible. Et si certains d'entre vous, ici dans ce lieu, avaient l'idée de commettre adultère, je vous dis de la part du Seigneur, repentez-vous. Mets un terme à tes péchés. Des fois, on dit, comment il faut que je règle mon péché? Vous savez, Daniel, quand il a vu Nebuchadnezzar ou pas Nebuchadnezzar, il lui a dit, si tu veux que ton bonheur se prolonge, mets un terme à tes péchés. Arrête de pécher. C'est un peu court comme méthode, mais c'est efficace. Des fois, un bon coup de pied au derrière, ça fait du bien, ça fait réfléchir. Bon, en tout cas, cette femme, elle a commis un flagrant délit d'adultère. Elle a été surprise en flagrant délit d'adultère. Elle a été traînée aux pieds de Jésus. On retrouve ça dans Jean 8. Et là, aux pieds du Seigneur Jésus, elle est sans doute terrorisée. Les Juifs, religieux, bien pensants, ils étaient nickel. Ils n'avaient rien à se reprocher, en apparence. Vous voyez, des fois on fait la leçon et on montre le doigt, mais on aurait tous peut-être des choses à se reprocher. D'ailleurs, on a tous des choses à se reprocher. La Bible dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Pourquoi on n'est pas heureux? Parce qu'on est, on a péché. Mais heureusement, il y a la grâce de Dieu. On va y venir tout à l'heure. La grâce de Dieu est là. Mais cette femme, surprise en flagrant délit d'adultère, elle se trouve là et les Juifs sont prêts à la lapider, à la mettre à mort. Ils ne voulaient pas lui faire de cadeau de Noël à cette femme. Ils étaient remplis de mauvais sentiments. C'est fou ça. On peut être religieux de la tête aux pieds et tomber dans des faux combats. Faire la guerre. Juger. Condamner. Mais vous voyez, Jésus, lui, ne condamne pas. Jésus nous dit les choses. Parce que si on veut être guéri du péché et du cancer, bien il faut le traiter, le mal. Donc Jésus dit les choses, mais Jésus ne dit pas les choses pour nous condamner, Jésus dit les choses pour nous amener à la santé et à la liberté. Si tu reçois ce message, tu peux ne pas le recevoir, te tendre en disant « Oh là, ce pasteur, il est un peu vigoureux, il nous prend de rebrousse-poil. » Ça peut peut-être un peu vous étonner, mais si vous recevez cette parole comme étant la parole de Dieu, cette parole pourra vous amener à la vie éternelle. Parce que Jésus va dire à ces religieux remplis de bons sentiments, « Attention, mon frère, ma sœur, l'esprit des pharisiens circule encore. » Il y a un frère qui a dit « Amen. » Vous savez, c'est le principe de la paille et de la poutre. On voit la paille dans l'œil de notre prochain, et on ne voit pas notre poutre. On est capable d'être très dur avec les gens, alors qu'il y a chez nous de gros problèmes à régler. Il est intérieur, le combat. Il est dans le secret de ma chambre. Quand je suis là avec mon Père, et que sa lumière m'éclaire dans les ténèbres de ma vie. Parce que des fois, il y en a du levain en nous. Il y en a! J'aimerais même vous dire qu'il y en a parmi nous. Ben non, vous allez dire, mais non, pasteur, ciel ouvert, c'est une église parfaite. C'est vrai, par la grâce de Dieu, elle est parfaite, cette église. Mais vous voyez, par exemple, à Corinthe, l'apôtre Paul dira, il y a parmi vous des querelles, il y a parmi vous des jalousies, il y a parmi vous ceci, il y a parmi vous cela, où j'ai envie de se dire, oulala. Mais en même temps, c'était une église qui avait tous les dons. Comme quoi, nous avons un Dieu de grâce. En fait, le seul qui peut juger, c'est le Seigneur. Amen. Et ce qui est fantastique, c'est que le Seigneur a décidé de ne pas nous juger. Il a décidé de nous faire grâce. Il a décidé de nous aimer. Il a décidé de nous pardonner. Il a décidé de nous renvoyer libres. Et cette femme qui était accusée à la fois par sa propre conscience, à la fois par la loi de Moïse, à la fois par la religion, alors que Jésus va, et là il est là, et puis il prie quelque chose à terre, et la Bible dit qu'en se levant, il va dire que celui de vous, d'entre vous qui est sans péché, jette le premier la pierre. Que celui de vous qui est sans péché condamne cette femme, tue cette femme, allez-y. Et la Bible dit dans Jean 8, verset 9, ça c'est, vous savez, c'est un message qui racle. Je vous racle ce matin. C'est de la chimiothérapie spirituelle. J'attaque ce qui te tourmente. Et peut-être même j'attaque, je suis en train d'attaquer ce qui te tourmente, mais dont tu n'as même pas conscience. Des fois, dans nos vies, ça ne va pas. Mais vous savez pourquoi ça ne va pas? Parce que ça ne va pas. Parce qu'il y a des choses qui ne vont pas. Alors ça ne va pas. Quand ils entendirent cela, Jean 8, verset 9, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, depuis les plus âgés jusqu'au dernier. Bon, là on comprend que plus on vit sur la terre, et plus on réalise qu'on est des pécheurs, normalement. Et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Ensuite, Jean 8, Il n'y a plus les trucs sur l'écran là-bas ? D'accord. Ça s'est fait rouler là. Jean 8, verset 10, il est dit ceci. « Alors s'étant relevé, ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, « Femme, où sont ceux qui t'accusaient ? Personne ne t'a-t-il condamné ?» Elle répondit, « Non, Seigneur. » Et Jésus, et prenez-le sur vous ce matin. Je ne voudrais pas que ce message vous mette mal à l'aise. S'il vous met mal à l'aise parce qu'il y a du péché dans votre vie, je dis gloire à Dieu. Repentez-vous, mettez un terme à vos péchés. Mais s'il n'y a pas de problème dans votre vie, alors réjouissez-vous. Parce que voici ce que la Bible dit. Jésus resta seul, s'étant relevé, je ne sais plus où j'en suis. Et ne voyant plus que la femme, Jésus dit, « Femme, où sont ceux qui t'accusaient ? Personne ne t'a-t-il condamné ?» Elle répondit, « Non, Seigneur. » Et Jésus lui dit, « Je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. » Arrête tes bêtises. Arrête de faire des choses qui ne sont pas à la gloire de Dieu. Tu vas dire, « Mais c'est difficile, pasteur. » Mais le Seigneur te donnera la capacité. Il te donnera la force de pouvoir résister au mal. La Bible dit « résister au diable ». Ça veut donc dire que c'est possible. Mais d'abord, soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable, il fuira loin de vous. Alléluia. Par motif de conscience, il y a des choses qu'on doit faire. L'apôtre Paul dit que par motif de conscience, par exemple, on doit être soumis aux autorités. Spirituelle et humaine. Amen. Arrête d'être un gilet jaune. Non, je blague. Non, mais parce qu'on croit qu'on peut faire ce que l'on veut, c'est pas vrai. C'est pas vrai. On peut le faire pendant un temps, mais à un moment donné, on aura Dieu en face. Et c'est pas même parce qu'on s'appelle Moïse le grand libérateur. C'est pas parce qu'on a une église de 1 million de membres qu'on peut faire ce qu'on veut. C'est pas vrai. L'église n'est pas à Ivan Kassar. Un jour, je serai plus là. Amen. Amen. Enfin, dites pas amen, mais... Parce que vous non plus, hein. Mais j'ai réalisé ce truc. Je dis, ouais, mais c'est fou. Vous savez, des fois, on est pasteur, on dit, allez, on va mettre une réunion, on va enlever trois réunions, on va faire ça, on va aller là, on va dire ça. Puis le Seigneur, il vient. Seigneur, tu fais quoi, là? Ben, je fais ton œuvre, Seigneur. Non, tu es en train de faire ce que tu veux avec mon épouse. N'oublie pas que c'est my wife, mon épouse. Et moi, j'imagine que si j'embête Céline au secrétariat, j'ai Gigi, JJ qui va venir. Et JJ, je suis soumis à Gigi. Quoi qu'il advienne. Jusqu'à mon dernier souffle. Alors, normal. Quand on fait le bien, on a le témoignage du Saint-Esprit. Le témoignage du Saint-Esprit n'est pas une vue de l'Esprit, justement. Le Saint-Esprit est réel. Et si tu veux la paix et la joie, il te faut la justice. Il faut que tu pratiques la justice. Le royaume de Dieu, ce n'est pas seulement la paix et la joie par le Saint-Esprit. Le royaume de Dieu, c'est la justice. Et faire ce qui est juste... Ce qui est bien réglé dans ta vie t'amènera à avoir la paix et la joie. Qui dépend même pas des circonstances. Quand tu es aligné sur le cœur de Dieu et la volonté de Dieu, tu as la paix et la joie. Quand tu vis en conscience devant Dieu, tu as la paix et la joie. Amen. Romains 9, 1, je dis la vérité en Christ, je ne mens pas, ma conscience m'en rend témoignage par le Saint-Esprit. 2 Corinthiens 1, 12, car ce qui fait notre gloire, c'est ce témoignage de notre conscience que nous nous sommes conduits dans le monde et surtout à votre égard, avec sainteté et pureté devant Dieu, non point avec une sagesse charnelle, mais avec la grâce de Dieu. Maintenant, pour ne pas faire reposer une charge sur l'Église trop lourde, j'aimerais dire que tout commence, et je vais conclure, tout commence avec le sang de Jésus. Nous l'avons chanté. D'ailleurs, est-ce que le pianiste peut revenir ? On va aller vers la fin. Je vais terminer en disant ceci. Comment pouvons-nous posséder cette bonne conscience ? Parce qu'il est important que nous vivions tranquilles. David disait, j'ai l'âme calme et tranquille, comme un enfant sevré auprès de sa mère. Ce n'est pas la volonté de Jésus que ton joug soit dur, que ta vie soit pénible. La grâce de Dieu a ôté cette notion de pénibilité de la loi. Son joug est doux et son fardeau est léger. Amen, peuple de Dieu. L'Évangile nous a rendu la vie meilleure. Ça ne veut pas dire que tout roule à l'extérieur, mais il a mis la paix dans notre cœur. On va bientôt célébrer Noël. Quand les anges sont apparus aux bergers dans la nuit, quel message glorieux! Il n'y avait pas de place. Il n'y avait pas de place pour Jésus à l'hôtellerie. Pas 5 étoiles. Mais il y avait de la place pour Jésus dans une crèche. Et Jésus s'est révélé à des gens simples. Et Jésus est venu annoncer la paix. Jésus est venu annoncer l'amour. Ne faites pas la guerre à vos frères. Stop! Arrête! Tu attristes le Saint-Esprit. Arrête de te tromper de combat. Arrête de juger. Libère-toi de l'esprit des pharisiens. Ce que tu ne comprends pas n'est pas forcément quelque chose de mauvais. Faisons confiance au Seigneur. L'apôtre aux Hébreux, et je vais terminer par là, Hébreux 9, verset 14, dit ceci, « Combien plus le sang, et même au verset 13 pour comprendre, car si le sang des taureaux et des boucs et la cendre, d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés, sanctifie et procure la pureté de la chair. Il était question de la loi de Moïse, de tous ces sacrifices qu'on faisait afin d'avoir une forme de liberté. Parce que dans l'Ancien Testament, le péché était couvert, il n'était pas ôté seulement. Il fallait sans cesse reproduire des sacrifices, des litres et des litres de sang pour qu'on puisse, enfin, dans toutes les religions, il y a cette notion de sacrifice. Mais notre Bible dit combien plus le sang de Christ, qui par un esprit éternel s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes afin que vous serviez le Dieu vivant? Vous savez, ces œuvres mortes, ce ne sont pas ces péchés, ce sont ces œuvres qu'on fait pour pouvoir mériter la grâce de Dieu. Je vais jeûner cette année. Je vais jeûner en janvier si Dieu me donne la santé. Je vais faire un jeûne de 21 jours. Mais je ne vais pas jeûner pour mériter la grâce de Dieu. Je vais jeûner pour replacer mon esprit dans des dispositions qui vont permettre à l'Esprit de Dieu d'agir dans ma vie. Le problème, il n'est pas du côté de Dieu. Le ciel est ouvert. Mais est-ce que mon cœur est ouvert ? La seule chose, la seule et unique chose qui purifie notre cœur, c'est le sang de Jésus. La seule chose qui triomphe de Satan, c'est la parole de mon témoignage et le sang de Jésus. Et quand Satan vient et te dit « Regarde comme tu vis, regarde ses pensées », visualise-toi la croix, rappelle-toi de ce que Jésus a fait pour toi. Lui, l'agneau sans tache, est venu ôter le péché du monde. Pour toi et pour moi, il est venu, il est allé jusqu'à la croix, il a porté nos maladies, il a porté nos péchés, alléluia. Le sang de Jésus a traité le péché du monde. Par le sang de Jésus, je peux être libre. Par le sang de Jésus, je peux m'approcher de Dieu. Amen. Hébreux 10 nous dit ceci, au verset 19. Ainsi donc, frères, puis-je dire moi, sœurs aussi, nous avons au moyen du sang de Jésus. Oh, le sang. Nous avons un moyen, nous avons un passe-droit. Nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire. Mais plus un sanctuaire terrestre. Yvan Kassar, il est assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Son nom est inscrit dans le livre de vie. Et c'est vrai pour toi si tu te réfères au sang de Jésus. C'est vrai pour toi. La mort de Jésus n'est pas un accident. La mort de Jésus, c'est le plan de Dieu pour sauver des pécheurs qui en ont plein sur leur cœur et leur conscience. J'ai une libre entrée dans le sanctuaire par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous tous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Et nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu. Approchons-nous donc, alléluia. Est-ce qu'on pourrait se mettre debout dans la présence de Dieu? Approchons-nous donc. Ne reste pas éloigné de Jésus. Ne reste pas éloigné du cœur de Dieu. Approchons-nous donc avec un cœur sincère. Arrête de jouer au cirque ou de faire du cinéma. S'il y a du péché dans ta vie, s'il y a du désordre dans ta vie, s'il y a de la pornographie, s'il y a de l'alcoolisme, s'il y a des liens, viens sincèrement devant Dieu. S'il y a de la froideur dans ton cœur, s'il y a de la religiosité dans ton cœur, nous venons devant Dieu tel que nous sommes. Sincèrement. Tu peux cacher aux hommes, tu ne peux pas cacher à Dieu. Et Dieu ne va pas te taper dessus, il va te faire grâce comme il a fait grâce à la femme adultère. Vous savez, Saül a commis des péchés beaucoup moins importants que ceux de David. Saül a manqué patience et n'a pas sacrifié tout ce qu'il devait sacrifier. David a tué un homme de son peuple. David a pris la femme d'un frère de son peuple. C'est beaucoup plus grave. Ce sont des péchés qui conduisent à la mort. Mais David a été sincère. David s'est repenti. Il a reconnu. Et sa conscience était tourmentée. Et lorsque le prophète est venu et qu'il lui a parlé de la part du Seigneur, il ne savait pas d'importance que les gens pensaient de lui. Il dira, ce qui est important pour moi, c'est ce que toi tu penses de moi, Seigneur. J'ai péché à tes yeux, Seigneur. Approche-toi. Approchons-nous avec un cœur sincère dans la plénitude de la foi. Les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience. Et le corps lavé d'une eau pure. Je veux servir Jésus avec une conscience pure. Et ceux qui sont d'accord avec moi ce matin, on pourrait lever nos mains vers le Seigneur. Seigneur, nous voulons élever des mains pures. Et nous voulons te demander de venir nous purifier par le sang de Jésus. Seigneur, merci pour ton sang. Ton sang qui purifie. Seigneur, tu blanchis notre robe. Tu purifies mon cœur. Crée en moi un cœur pur. Un esprit bien disposé. Pardon pour toutes les fois où mon esprit s'égare dans des vanités où il manque de lumière. Seigneur, que notre cœur ce matin, que le cœur de l'Église ciel ouvert, soit purifié par le sang. Seigneur, que l'ange de la mort, lorsqu'il viendra frapper, lorsqu'il y aura la condamnation dans ce monde, nous voulons être tout simplement, Seigneur, nous réfugier sous le sang de l'agneau. Le sang de l'agneau, tu verras le sang et tu n'entreras pas dans la maison. pour apporter la mort. Seigneur, je te prie, mon Dieu, que ton sang ce matin purifie des cœurs. Tu vois, ces nouveaux baptisés, Seigneur, c'est pour ça qu'on fait l'Église. Je te prie de les bénir, mon Dieu. Je te prie de les bénir, mon Dieu. Alléluia. Alléluia. Chacun. Seigneur, je te prie maintenant pour toutes les âmes dans le cœur. Dans le cœur intérieur n'a pas été encore purifié. Je te demande de les purifier maintenant par le sang de Jésus. Je te demande par le Saint-Esprit de leur donner une révélation afin qu'ils reviennent dans le vrai bon combat, le vrai combat de la foi, c'est garder une bonne conscience dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Shikara Maria de la Solo Granza.
Nous espérons que vous avez été encouragé par ce message. Pour plus de renseignements sur notre Église ou découvrir d'autres messages de l'Évangile, n'hésitez pas à visiter notre site églisecielouvert.com et à nous suivre sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter et Instagram. Nous vous invitons également à nous retrouver chaque semaine à Saint-Étienne-du-Rouvray pour nos différentes réunions.